Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, Media Dakar, 13h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. L'armée française a libéré 4 otages, 2 Français, une Américaine et une Sud-Coréenne, lors d'une intervention dans le nord du Burkina Faso, dans laquelle 2 militaires français ont été tués. C'est ce qu'a annoncé la présidence française ce vendredi. Les 2 Français, Patrick Pic et Laurent Lassimouias, avaient été enlevés le 1er mai dernier au Bénin, pays jusque-là épargné par les sécurités en Afrique de l'Ouest. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes dans la sous-région, au Nigeria, près de 900 enfants des milices civiles participant à la campagne contre Boko Haram ont été démobilisés aujourd'hui, a annoncé l'UNICEF. L'Agence onusienne de protection de l'enfance précise qu'un total de 894 enfants, dont 106 filles, ont été retirées des rangs de la force civile créée en 2013 pour protéger les populations en coopération avec l'armée contre les attaques du groupe djihadiste dans le nord-est du Nigeria. Et élection en Afrique du Sud, la victoire de l'ANC, le Congrès national africain au pouvoir depuis 1994, aux législatives de mercredi, se confirme de plus en plus aujourd'hui, mais avec un score en net recul qui va compliquer la réalisation des promesses de réforme faites par le président Cyril Ramaphosa. Au terme d'une deuxième longue nuit de dépouillement, l'ANC est en tête avec 57,2% des suffrages. De Johannesburg, notre correspondante Patricia Huon.
Pas de naufrage, mais pas de quoi triompher non plus. Le Congrès national africain, l'ANC, conserve comme prévu sa majorité au Parlement. Cela veut donc dire que le président Cyril Ramaphosa est certain d'être réélu par les députés le 22 mai. Le dépouillement des bureaux est toujours en cours, avec plus de 3/4 des voix qui ont été comptabilisées. L'ANC obtient 57% des suffrages. C'est le score le plus faible jamais obtenu par le parti pour une élection nationale depuis son arrivée au pouvoir en 1994. L'ANC limite donc les dégâts, mais le renouveau promis par le président Cyril Ramaphosa n'aura pas suffi à enrayer la chute de l'ancien mouvement de la lutte contre l'apartheid. L'opposition continue de grignoter son électorat sans pour autant effectuer de percée. L'Alliance démocratique obtient un peu moins de 22% des voix, plus ou moins le même score qu'en 2014. Le parti de Julius Malema obtient quant à lui 10% et s'impose comme la troisième force politique du pays. A noter aussi une participation assez faible, environ 65%, preuve que ce scrutin n'a pas enthousiasmé les Sud-Africains. Patricia Lyon, Johannesburg, Nigeria et Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'OCDH, l'Observatoire congolais des droits de l'homme, a dénoncé dans son rapport annuel sur les droits de l'homme publié ce jeudi à Brazzaville les mauvaises conditions de vie des prisonniers, dont beaucoup meurent en détention. Selon l'OCDH, les prisonniers politiques, notamment le général Jean-Marie Michel Moukoko, n'ont plus accès aux visites, surtout celles de leurs avocats. Des détails avec Arsène Séverin, notre correspondant à Brazzaville.
L'OCDH a principalement dénoncé les mauvaises conditions de détention dans les prisons congolaises. La vétusté des structures et le manque d'une bonne et régulière alimentation sont la cause des décès dans ces prisons, d'après le rapport annuel de l'ONG. Trésor Ndila Kende, le directeur exécutif de l'OCDH, a lui-même trouvé les mots pour décrire cette situation.
Nous avons connu une dégradation et même voir le durcissement des conditions de détention à partir de 2015 avec le changement de la Constitution qui a entraîné une campagne d'arrestation arbitraire et systématique des adversaires. Et nos prisons ont été peuplées. Et aujourd'hui, le problème, la surpopulation carcérale n'arrive pas à trouver des réponses qui conviennent. Nous avons enregistré une trentaine de décès dans la période 2017-2018. Et si je vous donne le chiffre le plus récent, c'est celui de la prison de Ouesso, où nous avons enregistré 9 décès. Voir des hommes mourir de faim en prison peut être assimilé à de la torture. Donc c'est une illustration parfaite des mauvaises conditions dans nos prisons.
Les enquêtes réalisées par l'OCDH sont compilées dans ce rapport de 105 pages intitulé « La terreur et la répression permanente » et couvre la période 2017-2018. Pour Ndila Kende, la situation est globalement chaotique.
Alors la situation, elle est préoccupante, chaotique. Il y a une dégradation spectaculaire de la situation des droits humains. La terreur et la répression se poursuivent à huis clos. Le rapport sera adressé aux autorités et nous invitons le gouvernement congolais à considérer ce rapport non pas comme une invective, mais plutôt comme notre contribution pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays.
L'ancien ministre Alain Akuala, qui a assisté à la présentation de ce rapport, estime qu'il faut considérer cette publication comme une contribution à la construction de la démocratie.
Le rapport, c'est vrai, il a un titre assez accrocheur. Mais vous savez, la construction d'un État démocratique est un processus de longue haleine. Il y a une chose que le CEDH a noté et a remarqué, c'est que notre pays s'est doté d'un certain nombre d'instruments juridiques, mais c'est la traduction justement dans les faits ou dans la pratique des conséquences, si vous voulez, de l'adoption de ces instruments juridiques qui tardent. Et ça, même les grands pays, les plus grands pays démocratiques, sont quand même épinglés. C'est un rapport, j'allais dire, utile.
L'OCDH est l'une des rares ONG locales qui présente régulièrement son rapport sur la situation des droits de l'homme. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Afrique du Nord, maintenant, le Conseil de sécurité de l'ONU se penche à huis clos ce vendredi sur la situation humanitaire en Libye après plus d'un mois d'offensive militaire infructueuse des troupes du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est du pays, pour s'emparer du contrôle de la capitale Tripoli. Au Conseil de sécurité, les Occidentaux sont divisés sur ce qu'ils conviennent faire pour la Libye. Une proposition de résolution britannique demandant un cessez-le-feu n'ayant toujours pas obtenu à ce jour de soutien de la part des États-Unis. La Russie, qui appuie le maréchal Haftar, manifeste également des réticences à l'égard de la proposition britannique. Le maréchal Haftar a reçu hier le soutien du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi lors de sa deuxième visite au Caire en moins de mois. Son rival, Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA, le gouvernement libyen d'union nationale dont le siège est à Tripoli, était lui en tournée européenne. Plus de détails avec Abdourahman Dia.
Le porte-parole de la présidence égyptienne, Bassam Radi, a déclaré que le président Sissi a affirmé le soutien de l'Égypte aux efforts de Khalifa Haftar dans la lutte contre le terrorisme et les milices extrémistes afin de parvenir à la sécurité et la stabilité en Libye. De son côté, le maréchal Haftar, dont la dernière visite au Caire remonte au 14 avril, a dénoncé l'ingérence étrangère dans les affaires intérieures libyennes. Sa visite dans la capitale égyptienne intervient après une tournée en Europe de son rival Fayez al-Sarraj, premier ministre du GNA. À Rome, à Berlin, puis à Paris et Londres, M. Sarraj a cherché cette semaine le soutien des Européens contre ce qu'il appelle l'agression de l'armée nationale libyenne de Khalifa Haftar. Les Occidentaux ont rappelé que la situation ne peut être militaire en Libye. Selon l'ONU, les affrontements et les bombardements ont fait au moins 432 morts et plus de 55 000 déplacés depuis l'offensive des troupes de Haftar le 4 avril dernier.
Corne de l'Afrique, le commandement militaire américain pour l'Afrique, l'AFRICOM, a annoncé avoir tué 13 membres présumés du groupe État islamique en Somalie dans une frappe aérienne mercredi dans le nord du pays. Les partisans d'Abou Bakar al-Baghdadi sont basés dans la région semi-autonome du Puntland et leur leader est Abdul Kadir Moumine, placé en août 2016 sur la liste des terroristes internationaux par le département d'État américain. Et toujours concernant l'actualité américaine, la hausse des droits de douane sur 200 milliards de dollars de produits chinois décidée par le président Donald Trump est entrée en vigueur aujourd'hui à la première heure, renforçant encore les tensions entre la Chine et les États-Unis alors que les négociations se poursuivent à Washington. Ces produits, jusque-là soumis à des droits de douane de 10%, sont désormais taxés à hauteur de 25% depuis très tôt ce matin. Les précisions d'Idrissa Seloudia.
Parmi les importations concernées figurent des produits chimiques, des matériaux de construction, du mobilier et de l'électronique grand public. La Chine a aussitôt indiqué qu'elle regrettait profondément la décision américaine et qu'elle prendrait des contre-mesures sans les détailler. Le représentant américain au commerce Robert Lighthizer, le secrétaire américain au trésor Steve Mnuchin et le vice-premier ministre chinois Liu Hye se sont rencontrés pendant une heure et demi jeudi à Washington. Ils ont convenu de reprendre leur discussion ce matin, a annoncé un porte-parole de la Maison-Blanche.
Et pour terminer, le leader nord-coréen Kim Jong-un a ordonné un exercice de frappe à longue portée. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi l'agence d'État nord-coréenne KCNA, quelques heures après que Séoul eut fait état de tirs de missiles à courte portée. Ces tirs sont intervenus quelques heures après l'arrivée à Séoul de Stephen Biegun, représentant spécial américain pour la Corée du Nord. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.